carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Annie Regon.
Bonjour, bienvenue dans ce carrefour des arts. Aujourd'hui, nous allons parler de Emmanuel Pontremoli, architecte, et la prochaine fois, nous évoquerons la Villa Kérylos. En effet, Pontremoli apparaît comme l'architecte de Théodore Reynac. Il est donc lié à la Villa Kérylos, mais pourtant, sa carrière, qui pourrait paraître purement traditionnelle, puisqu'il a été élève de l'École des Beaux-Arts, prix de Rome, il a reçu des commandes publiques et privées, il a été directeur et chef d'atelier à l'École des Beaux-Arts. Cette carrière qui pourrait paraître tout à fait traditionnelle se situe en fait pendant une évolution de l'art de bâtir et elle mérite d'être mieux connue. C'est pourquoi nous allons essayer de parler un petit peu aujourd'hui de Pontremoli, essentiellement dans la relation qu'il a eue avec l'art antique. Cet architecte, donc, qui est né à Nice en 1865, est lié à l'Institut de France, comme on l'a déjà dit, puisqu'il a lui-même appartenu à l'École des Beaux-Arts et qu'il a été un maître d'ouvrage très, tout à fait important pour Théodore Reynac, lui-même membre des deux académies. Alors donc, Emmanuel Pontremoli est né dans une famille très très cultivée. Son père était rabbin et comme plusieurs de ses coreligionnaires, sa famille avait pris le nom d'une ville où probablement ses ancêtres avaient été accueillis. Pontremoli, en effet, pour les personnes qui connaissent bien l'Italie, c'est une petite ville qui se trouve à la limite de la Toscane, du royaume de Piémont-Sardaigne et de l'Émilie-Romagne, ainsi que de la Ligurie, enfin qui appartenait au royaume de Piémont-Sardaigne. Alors, royaume de Piémont-Sardaigne, qui, il faut le rappeler, englobait aussi en 1865 le comté de Nice, qui s'appelait à ce moment-là Nizza, et qui n'est devenu Nice qu'après le rattachement à la France, qui a suivi l'unification de l'Italie, qui s'est produite justement au moment de la naissance de notre architecte. Donc on peut supposer que Pontremoli a reçu dans son enfance une culture plutôt italienne qui le portait naturellement vers l'Antiquité et aussi vers l'architecture, la Toscane étant, la Toscane, la Ligurie étant une région qui a fourni de nombreux architectes et aussi de nombreux entrepreneurs en raison de la présence des carrières de Carrare qui fournissent toujours d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de matériaux, aussi bien pour la construction que la restauration. Alors j'ai donc déjà indiqué que Pontremoli a été l'élève de l'École des Beaux-Arts de Paris, qui dans les années 80 du 19e siècle était une école tout à fait traditionnelle qui ressortait de, on peut dire en gros, d'un certain éclectisme, mais dans laquelle l'enseignement de l'Antiquité était encore très fort. Il faut rappeler que Viollet-le-Duc, par exemple, qui lui était un tenant du retour à l'art médiéval, n'a jamais du tout été admis à l'École des Beaux-Arts, qu'il n'y a pas été élève, et que quand il a essayé d'enseigner, il a été l'objet d'un tel tollé qu'il a dû très vite se retirer. Donc la culture de l'Antiquité était encore très présente à l'École des Beaux-Arts dans les années 80 du 19e siècle, même si, naturellement, l'éclectisme ambiant était très fort aussi. On n'hésitait pas à mélanger les styles à ce moment-là. Alors donc, notre artiste suit son cursus et puis se présente au prix de Rome qu'il obtient. Et donc, il part pour un séjour de 2 ans à la Villa Médicis, ce qui, en ce temps-là, était considéré quand même comme un privilège et ce qui permettait de rompre un petit peu les ponts avec sa famille. On ne revenait jamais ou pratiquement pas à Paris. On partait pour 2 années complètes à Rome. Et ce séjour était l'occasion pour les jeunes architectes de connaître le milieu artistique français présent à Rome, qui était très riche, et puis également surtout d'accomplir des travaux. Alors ces travaux d'architecture commençaient toujours par un travail de relevé de monuments antiques. Alors pourquoi faisait-on relever des monuments antiques, ça pouvait déjà sembler une démarche passéiste dans les années 80 du 19e siècle. Pourtant, Cet exercice, alors que le style néoclassique était déjà depuis longtemps passé de mode, cet exercice avait la réputation de donner aux jeunes architectes le sens des proportions. En effet, on les engageait à mesurer avec beaucoup de soin, au millimètre près, les monuments et à essayer de découvrir le système de proportions qui avait été à l'origine des projets. Ceci dit, on sait très bien que les proportions que l'on pouvait calculer à ce moment-là pouvaient être sujettes à interrogation étant donné le nombre important de transformations que les monuments avaient subies depuis leur achèvement et puis aussi par le fait que très souvent ils étaient enterrés ou qu'ils l'avaient été et que, en particulier, le problème des hauteurs était loin d'être simple. En tout cas, il est certain que cet exercice de relevé a été accompli par les élèves architectes pratiquement jusqu'en 1968. Ça paraît surprenant, mais c'est seulement après 68 et après toutes les réformes qui s'en sont suivies que l'on a interrompu cette pratique. Donc, évidemment, Pontremoli doit s'y soumettre et il s'y soumet d'autant plus que lui, il est passionné par l'art antique et en particulier par l'art grec. Et il va en effet choisir comme monument l'arc de Trajan à Ancône. Alors, cet arc de Trajan à Ancône, c'est en Italie, bien sûr, mais cela mérite d'être un petit peu explicité. En effet, Ancône est une ville qui est d'origine grecque, qui s'appelait Ancona, ce qui signifie coude en grec. Et en effet, c'est une ville qui avait été fondée par Syracuse, donc par une colonie grecque de Sicile, et où Trajan avait fait faire de très importants travaux. Il a fait complètement restructurer le port, qui était un très beau port antique, probablement dans le but d'assurer une base de départ pour ses campagnes de Dacie. En tout cas, actuellement, aujourd'hui encore, on peut voir que Ancône, c'est une tête de pont vers la Grèce. Il suffit de visiter le musée archéologique pour se rendre compte qu'il y a de très nombreux vestiges, naturellement, qui proviennent de la mer ou bien qui proviennent aussi de la terre, bien sûr, que l'on a pu exhumer dans la ville. Mais on se rend très bien compte que Ancône était lié de très près à la Grèce. Alors donc, ça devait beaucoup plaire à Pontremoli. Quant à l'arc de Trajan lui-même, c'est un monument très majestueux qui a été construit entre 114 et 120 après Jésus-Christ, à peu près, donc au moment du règne de cet empereur, par les habitants de la ville pour le remercier d'avoir construit le port. Alors, il a une situation qui est particulière. Il se trouve au sommet d'un promontoire. La ville d'Ancône étant elle-même pratiquement construite sur un promontoire dominant l'Adriatique, l'arc se trouve au sommet et il servait de repère aux navigateurs quand ils arrivaient dans le port et aux navigateurs qui arrivaient de Grèce notamment. Alors donc, en plus de ses qualités architecturales propres, cet arc possédait des qualités paysagères qui, évidemment, ne pouvaient que plaire à un architecte. Il possédait donc, comme je le disais, aussi des qualités architecturales tout à fait communes à tous les arcs. Les arcs de triomphe à cette époque sont toujours des monuments très intéressants, avec deux ou quatre piles, avec toujours un arc central en plein cintre, et puis de petits arcs sur les côtés, ou alors, comme celui d'Ancône, justement un seul arc, mais de très nombreux décors. Alors, cette forte articulation, cette volumétrie majestueuse ne pouvait que plaire, évidemment, à un architecte déjà passionné. Ce qui est intéressant aussi, et ça, on s'en rend compte surtout quand on est sur place, c'est que le paysage est visible aussi à travers l'arc. Donc, un rapport à l'espace qui est tout à fait spécifique. Bien entendu, à l'origine, cet arc possédait aussi des sculptures commémoratives. Malheureusement, à l'époque où Pontremoli a accompli ses travaux, ces sculptures qui étaient en bronze doré avaient disparu. Elles avaient été, bien sûr, déposées pour être refondues. Presque toutes les œuvres métalliques de l'Antiquité, les œuvres qui se trouvaient dans l'espace public, avaient subi ce sort. Enfin, évidemment déplorable, mais la structure architecturale n'en apparaît que plus visible. Les problèmes spécifiques de restauration se sont donc posés dès que l'architecte a eu terminé son relevé. Et c'est donc lui qui va avoir à accomplir cette restauration parce que quelquefois, les relevés étaient faits à titre simplement d'exercice sans qu'il y ait d'intervention qui soit prévue. Mais là, Pontremoli va véritablement intervenir sur cet arc. Et c'est d'autant plus intéressant que là aussi vont se poser des problèmes de doctrine de restauration. La doctrine de restauration s'était élaborée justement à partir du début du XIXe siècle, lors de la restauration d'un autre arc de triomphe, l'arc de Titus, qui se trouve sur le Forum à Rome. Et c'est ce que nous allons voir après la pause. Je vous rappelle que nous parlons de Emmanuel Pontremoli, architecte français, mais très amoureux de la Grèce, architecte et archéologue, et nous l'avions laissé en cône sur le promontoire dominant la ville, au pied de l'arc de Trajan, donc là où il a eu à accomplir un travail de restauration. Alors, en effet, il est bon de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avant, au début du XIXe siècle. En effet, lorsque Napoléon est venu en Italie, il a voulu, comme l'avait fait un certain nombre de personnes avant lui, faire restaurer les monuments antiques, qui étaient dans des états divers suivant le cas. Et il avait donc demandé à ce que l'on restaure l'arc de Titus qui se trouve au Forum, à Rome. Bon, Napoléon est parti, mais l'idée était dans l'air de restaurer cet arc de Titus, et on a fait appel à un jeune architecte d'origine autrichienne qui s'appelait Raphaël Stern et qui avait trouvé qu'on ne pouvait pas faire de pastiche de l'Antiquité, qu'il fallait être modeste devant les œuvres laissées par les anciens et qu'il fallait restaurer de manière minimaliste. Il fallait surtout que l'œuvre soit solide, qu'elle puisse affronter encore les siècles, mais il n'était pas question de lui redonner un décor qu'elle avait perdu. Et il avait préconisé de ne pas refaire les cannelures aux colonnes que l'on allait rajouter pour remplacer les colonnes perdues. Cette doctrine allait à l'encontre de la doctrine dominante en France à ce moment-là, qui était la théorie de Viollet-le-Duc, en fait, qui lui pensait qu'un monument devait être restitué dans un état idéal, même si cet état n'avait jamais existé. Alors évidemment, c'est une toute autre doctrine qui se développait. On pouvait aussi d'ailleurs encore opposer une troisième doctrine qui était celle des Anglais, et en particulier de John Ruskin, qui lui prétendait qu'il ne fallait pas restaurer les monuments, que les monuments étaient comme des plantes qui auraient poussé et qui devaient mourir de leur belle mort. Ce qui était évidemment en totale opposition avec les deux autres doctrines que je viens d'exposer. Alors Pontremoli, lui, était partagé un petit peu entre la doctrine française et la doctrine italienne, mais je pense qu'il était quand même plus près de la doctrine italienne. Il a commencé par faire un relevé très très minutieux du monument. Il a bien étudié les proportions, ce qui est rendu très difficile par l'enfouissement, comme je le disais tout à l'heure. Et il a étudié les restaurations antérieures également qui avaient été faites sur cet arc, qui avaient été restaurées ou plus ou moins réparées, on pourrait dire, notamment par la dynastie des Bourbons de Naples, qui avait envoyé son architecte Van Vitelli pour restaurer une partie de la ville d'Ancône. Évidemment, le problème des restaurations est toujours complexe, les restaurations ultérieures, parce que quelquefois les restaurations sont en mauvais état et il faut soit restaurer les restaurations, soit les supprimer. Donc finalement, l'intervention de Pontremoli est restée modeste, elle est devenue très peu perceptible aujourd'hui et en fait, il faut vraiment être bien informé pour se rendre compte de ces interventions qui ont évidemment permis à l'Arc d'Ancône d'être encore là aujourd'hui. Il n'a pas cherché à laisser sa marque sur le monument. Voilà, donc ça c'était pour une première approche de Pontremoli en Italie. qui a eu l'occasion de retourner en Italie de temps en temps. Il a eu également l'occasion de travailler en Turquie, puisqu'il a été l'auteur du consulat de France à Smyrne. Mais Smyrne, il faut bien penser que c'était la Turquie à cette époque, mais que ça avait été très longtemps la Grèce et que naturellement, il était heureux de se trouver dans cette région au bord de la mer. Cette ville avait porté aussi le nom d'Izmir et a été, il y a un très grand temple, le temple d'Artémis, qui se trouvait là. Il a été ravi de pouvoir observer cette merveille du monde, puisque c'était une des sept merveilles du monde. Voilà. Alors, autrement, nous parlerons une prochaine fois de la Villa Kérylos, qui a été vraiment son très grand chantier. Mais il faut savoir qu'il a construit de nombreux immeubles à Paris. Et puis également la synagogue de Boulogne-Billancourt, qui a été classée monument historique il n'y a pas très longtemps. Et également un chantier très intéressant qui est aussi en lien avec l'archéologie, c'est l'Institut de recherche et le musée de paléontologie humaine, là où en fait on a étudié d'une manière médicale, d'une manière on peut dire très scientifique, les ossements humains que l'on a trouvés dans certaines campagnes de fouilles. Et là, ce qui est intéressant, il n'a pas du tout cherché à créer un monument antique. Il s'est très bien adapté à la commande. Et en fait, on se rend compte que malgré l'aspect qu'on pourrait qualifier quand même d'archéologique ou de passéiste par certains côtés de l'art de cet architecte, eh bien, on se rend compte que malgré tout, il a pu comprendre l'intérêt du mouvement moderne en architecture et s'adapter surtout très bien à ce que souhaitait son maître d'ouvrage. Ce qui, pour un architecte, est quand même, il faut le rappeler parfois, une qualité importante. Il a également su très bien préparer, aider à l'élaboration du programme de décor de sculpture par le sculpteur Roux. Et donc, on peut dire que cet institut de recherche et ce musée de paléontologie dans le 13e arrondissement sont une sorte de, on pourrait peut-être pas dire un modèle, parce que des modèles, c'est toujours un petit peu dangereux d'attribuer ce mot aux œuvres. Mais il s'agit, je pense, d'un monument quand même très intéressant et qui peut permettre de recadrer un petit peu l'œuvre de cet artiste dans un ensemble plus vaste. Voilà, merci.